France Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans France Culture, patrimoine, spectacle, visite et initiative. L'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Et nous sommes 6 dans l'émission pour satisfaire votre curiosité. Avec moi aujourd'hui pour animer Marie et Bénédicte, bonjour à vous.
Bonjour, bonjour.
Alors depuis le Moyen-Âge, l'Anjou est une terre de livres et cela continue au château d'Angers. Catherine Leroy est avec nous pour nous parler de la nouvelle exposition du manuscrit à la BD. Et bien entendu, les fêtes sont passées, mais pas la gourmandise. Vous vous êtes régalé peut-être de truffes, d'orangettes, de marrons glacés ou de plein d'autres spécialités. Mais d'où nous vient cette diversité des goûts et des propositions ? La confiserie française, c'est le reflet d'un monde de traditions locales, parfois très anciennes, que l'on découvre aujourd'hui avec Françoise Loubert, propriétaire de la confiserie Pont-à-Genêt. C'est parti !
Françoise Loubet.
Françoise Loubet, pardon. C'est parti pour 30 minutes ensemble.
France Culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Bénédicte, on a la chance d'avoir à Angers une véritable institution pour les gourmands qui perpétue les savoir-faire sucrés et ancestraux de la France.
Oui, Cécile, la confiserie Plantagenêt est bien la plus ancienne épicerie fine d'Angers, qui se dénommait Tout pour la pâtisserie, je crois. Elle s'adresse aujourd'hui moins aux professionnels qu'aux particuliers, mais tout y est, des moules, des décorations en sucre, des sucettes pierrot gourmand, des pâtes de fruits, des colorants alimentaires ou du sirop au coquelicot. La confiserie Plantagenêt, c'est le paradis des gourmands et des pâtissiers confiseurs. Françoise Loubet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la propriétaire de ce commerce unique et ancien et je crois que vous l'avez repris sur un coup de foudre il y a une quinzaine d'années. Racontez-nous tout ça.
Voilà, j'ai visité ce local quand je suis arrivée sur Angers et franchement j'ai eu un coup de cœur. C'est un endroit qui me plaisait énormément et j'avais vraiment envie d'être à ma place dans ce lieu.
Qu'est-ce qui vous a séduite alors dans ce métier ?
En fait, cette boutique avait une histoire dans le cœur des Angevins. Elle était très ancienne. Elle s'adressait effectivement d'abord aux professionnels, puisque à l'origine, c'était un fournisseur d'ingrédients pour les professionnels, les pâtissiers, les boulangers. Et il y avait aussi des moules et de la confiserie un peu traditionnelle, comme les calissons, les pâtes de fruits. Et puis, c'était un lieu qui était chargé d'émotions. Et je voulais amener mon univers à moi, quelque chose de chaleureux, d'accueillant, et retrouver les bonbons d'autrefois pour que les clients puissent avoir la nostalgie de leur enfance et puis du plaisir et les yeux qui pétillent.
Donc à l'origine, c'était une boutique de détail, de vrac, c'est toujours le cas.
C'est toujours le cas.
Mais vous présentez aussi des boîtes magnifiques. Comment est-ce que vous faites votre sélection ?
Alors, les confiseries, évidemment, notre patrimoine est très développé en France. Les pâtisseries, les confiseries ont chacune leur gourmandise, leur spécificité. Les artisans, les maîtres confiseurs proposent des produits de grande qualité. Et évidemment, l'emballage, la boîte est vraiment quelque chose de très joli.
C'est vrai que derrière chaque bonbon ou chaque ingrédient, il y a une histoire, parfois un accident de parcours, parfois c'est un terroir, un paysage ou des contraintes économiques. Racontez-nous un peu, par exemple, les coussins de Lyon.
Alors, les coussins de Lyon, c'est une confiserie emblématique de la ville de Lyon. On peut trouver l'origine dès le 1500 et quelques, lors d'une grande épidémie de peste qui sévissait sur la ville de Lyon. Les échevins de Lyon ont promis de faire une procession pour implorer la Vierge sur la colline de Fourvière. Et pour cela, ils ont porté un grand cierge et également un louis d'or sur un coussin de soie. Et la capitale de la soie étant Lyon. Et quelques années plus tard, enfin plutôt en fin du début du 19e, un confiseur a repris cette emblématique du coussin qui est devenue une pâte d'amande aromatisée au curaçao de couleur verte avec une ganache de chocolat noir à l'intérieur.
Donc il représente ce fameux coussin.
Voilà.
Et les bêtises de Cambrai, alors par exemple, qu'est-ce que vous pouvez en dire ?
Alors les bêtises de Cambrai, c'est un incident de fabrication. L'apprenti qui devait faire cuire le sucre qui était composé de ce bonbon, qui est à la menthe et au sucre, a fait un peu brûler le sucre au fond de la marmite. Le confiseur a déclaré « mais tu ne feras donc que des bêtises dans ta vie ». Malgré tout, ce bonbon a été mis en vente. Et tous les habitants de Cambrai l'ont trouvé très bon, cette alliance de sucre et de menthe. Et puis voilà, c'est devenu la bêtise de Cambrai et qui est toujours très appréciée.
C'est un nom qui est resté. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi des bonbons de Nemours ou des grisettes de Montpellier ?
Alors les grisettes de Montpellier, là c'est encore plus ancien, ça remonte au Moyen-Âge, peut-être même au XIIe siècle. Donc dans cette époque où il y avait beaucoup de... Ça provient souvent de préparations d'apothicaires. Le miel et la réglisse qui étaient des éléments de la région et qui étaient déjà très utilisés en médecine ou en pharmacie. Le bonbon a été... C'est un petit bonbon rond donc à base de miel et de réglisse. Et la légende dit même que les commerçants s'en servaient comme monnaie d'échange quand les pèlerins suivaient la route de Compostelle.
D'accord. Très, très jolie histoire.
Oh, puis il y a le cachou aussi qui a quand même une mauvaise réputation, le cachou sous les impairs. C'est pas terrible. Le cachou sous les impairs, cachou. Très mauvaise réputation,
ouais.
Et pourtant.
Oui. Non, la réglisse, c'est vraiment... Il y a beaucoup d'amateurs pour la réglisse, tout ce qui est à base de réglisse.
Je lisais en préparant l'émission justement que la réglisse se consommait salée dans les pays du Nord.
Exact. J'ai goûté, j'ai une cliente qui a bien voulu m'en ramener. C'est un peu spécial.
Est-ce qu'on peut parler justement de tendance dans toute votre sélection ?
La tendance, ça serait vraiment les bonbons d'antan, les souvenirs, la nostalgie, les plaisirs que l'on avait enfant, les bonbons qu'on trouvait chez nos grands-mères aussi. Il y avait peu de bonbons à l'époque, il y avait la pastille de Vichy, les gommes à la menthe, les bonbons à la violette ou au coquelicot. Il y avait très très peu de bonbons dans les maisons, donc c'était le bonbon récompense. Il fallait être pour les enfants sages. Et autrement, les tendances, c'est, je pense, c'est les classiques. C'est le calisson d'Aix, c'est les pâtes de fruits d'Auvergne, c'est le marron glacé à Noël.
Alors, est-ce que vous pouvez justement associer ces différents produits à leur région ? Pourquoi le calisson d'Aix ? Pourquoi la pâte de fruits d'Auvergne ?
Oui, alors en fait, souvent, c'est avec le terroir qu'on trouve une confiserie. Les pâtes de fruits d'Auvergne, les vergers étaient nombreux sur les parois des volcans. Certainement, la terre était très riche pour cette culture. On appelait ça d'ailleurs les pâtes d'Auvergne. On appelait ça la pâte de fruits en elle-même a été inventée ou commencée à être fabriquée peut-être... dès l'Antiquité. Mais là, cette production en Auvergne a vraiment été... Ça reste le terroir.
Est-ce qu'on peut... Et alors, les calissons d'Aix ?
Alors, les calissons d'Aix...
C'est de la pâte d'amande, sans doute ?
C'est de la pâte d'amande.
Non, c'est pas de la pâte d'amande, d'ailleurs,
C'est de la poudre d'amande et du melon confit.
Du melon confit. Donc, voilà. C'est vraiment en lien avec le terroir et la production locale
voilà, exactement.
De melon.
Voilà.
J'ai un petit trou de questions. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de tous ces petits artisans français ? Parce que il y a quand même une concurrence des chocolats belges, par exemple, des bonbons allemands Haribo, pour ne pas les citer. Est-ce qu'on peut dire que la profession elle est en difficulté aujourd'hui ou au contraire il y a un regain de toutes ces friandises
Alors, je pense que
typiques.
Oui, je pense que c'est vrai que la génération de peut-être de nos enfants ou de nos petits-enfants, bon, si on peut, est plus attirée par les bonbons un peu chimiques. Après, c'est aux parents, et je les vois dans la boutique, qui essayent de donner à leur enfant le goût des bonnes choses. Et ben voilà, on va acheter 3 pâtes de fruits et 4 guimauves et on va les goûter. Donc il y a peut-être un travail aussi de la part des parents pour oser rentrer dans une confiserie comme la mienne. Et ça me fait vraiment énormément plaisir de voir des petits dire oui, ça j'aime bien. Et c'est, pour moi, c'est vraiment une satisfaction. Mais je pense que enfin, on a envie de retrouver toutes ces saveurs de bons produits avec le savoir-faire artisanal, que ça soit une bonne pâte de fruits avec 100% le fruit, sans trop de sucre, un marron glacé fait vraiment dans les règles de l'art. Et je pense que non, la confiserie n'est pas du tout en déclin, au contraire.
Au contraire, et ça va plutôt vers la qualité.
Oui, c'est ça.
Alors, vous vendez, comme on l'a dit, des bonbons historiques et de qualité, mais vous vendez aussi tous les ingrédients pour faire de la pâtisserie. Est-ce qu'on fait encore beaucoup de pâtisseries et de pâtisseries sophistiquées en France, à la maison ?
Alors, je ne sais pas si c'est vraiment de la pâtisserie sophistiquée, mais enfin, c'est de la pâtisserie peut-être même... qui apparemment pourrait s'avérer difficile, mais faire des orangettes au chocolat... voilà, soit on fait soi-même son fruit confit, son orange confite et pour faire ses lamelles d'orange, soit on peut acheter la lamelle d'orange déjà confite.
Chez vous.
Et voilà, à la boutique, on peut trouver du bon chocolat de couverture, riche en beurre de cacao, enfin voilà, le vrai chocolat à pâtisserie. On trempe les orangettes dans le chocolat fondu au bain-marie et on a des superbes orangettes au chocolat. Donc, il y a beaucoup de clients qui font leur pâtisserie, mais je vois de plus en plus de jeunes qui avec certainement le développement de toutes les émissions culinaires, mais je vois de plus en plus de jeunes qui viennent.
Oui, vous avez une clientèle qui se rajeunit, en fait.
Ouais.
Alors, quels sont les ingrédients les plus atypiques ? Citez-moi un ingrédient qu'on ne connaîtrait pas.
Alors, c'est une colle. j'ai des clients qui arrivent dans la boutique et me disent « je pense que vous n'aurez pas, mais positif. Est-ce que il me faudrait de la fève de tonka ?» Ah ben oui, j'ai de la fève de tonka. Voilà, c'est une petite fève comme une fève de cacao qui a un petit goût d'amande amère et qu'on râpe comme la noix de muscade et on peut mettre ça dans aromatiser du chocolat par exemple. Donc il y a des produits qu'on ne sait pas où trouver, on me dit, enfin voilà, que
De la rose, de la rose, de la violette, tous ces parfums anciens, vous les avez ?
Alors, je les ai sous toutes les formes, j'ai toute la famille, de la rose ou de la violette en confiture, en gelée, en violette cristallisée de Toulouse, j'ai des guimauves artisanales à violette, enfin j'ai vraiment toute la gamme de violette ou de rose pour les amateurs.
Et vous fournissez essentiellement en France ?
Oui, alors j'ai un site internet et il m'arrive d'envoyer des confiseries dans toute l'Europe.
D'accord.
Oui. J'ai les Royaume-Uni sont fervents de sucettes Pierrot Gourmand, ou en Espagne, en Italie, les pastilles Vichy. Enfin, chaque pays a un peu ses demandes.
Ses spécificités.
Ouais.
On peut dire, vous favorisez en fait à travers votre métier la mise en valeur de ce patrimoine de la confiserie française essentiellement, et vous participez à son développement. Si moi je dis que vous êtes une ambassadrice des confiseurs, qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais écoutez, je suis ravie parce que garder présent et puis près de tout le monde le savoir-faire d'artisans et de maîtres confiseurs qui œuvrent depuis des générations. Il y a vraiment une passion, un amour de leur métier, de leurs produits. Et ça, si je peux le faire découvrir à toute personne, aux jeunes, enfin, c'est vraiment une grande satisfaction pour moi.
Il y a un produit dont on n'a pas parlé, et pourtant il est local. Ce sont les pommes tapées d'Anjou. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, les pommes tapées qui... n'est ne sont pas forcément très, très bien connus sur, dans la région. En fait, ça provient plus essentiellement du Saumurois. L'histoire des pommes tapées remonte en 1790 à peu près, quand il y a eu des épidémies de phylloxéra dans les vignes du Saumurois. Les paysans ont dû arracher leurs vignes et n'avaient plus de ressources pour vivre. Ils avaient ces pommes, c'est des petits pommiers très, très rustiques. Donc, il les faisait sécher un petit peu dans les fours. Après, il les tapait à l'époque, la légende dit de 40 coups de marteau.
Pour les écraser.
Donc, elles sont juste déshydratées, aplaties, elles ne sont pas vidées. En novembre, il y avait les veillées pour peler les pommes, tous ensemble, au coin de la cheminée. Et puis, donc, une fois ces pommes tapées, séchées, elles étaient très aplaties, elles ne prenaient pas de place, elles étaient très légères. Et on les mettait dans des barriques. Ça remontait la Loire jusqu'à Nantes, et puis ça partait sur les bateaux pour que les marins qui traversaient l'Atlantique à l'époque puissent avoir une source de vitamine C pour
éviter le scorbut.
Voilà. Et la Marine Royale était un des premiers acheteurs de ces pommes tapées.
Et alors pourquoi aujourd'hui elles ne sont pas très très consommées finalement ?
C'est une fabrication qui est longue, qui n'est pas très industrialisée pour le coup. Il faut vraiment... une machine ne peut pas remplacer, je pense, la main pour ne pas écraser la pomme, etc. Donc il y a tout un savoir-faire et la production est assez restreinte.
Limitée, non ? Il y a peu de producteurs en Anjou ?
Mais en fait, il y en a un en Anjou, à Turquan. Et puis la pomme, c'est plus la vallée de... Enfin, c'est plus en Anjou et puis la poire en Touraine.
Parce qu'il y a aussi des poires tapées.
Voilà.
Et alors, ces pommes tapées, elles se consomment comment ? On les croque comme un fruit sec, voilà, ou on les utilise en cuisine ?
Alors, on peut les manger comme ça, c'est très bon. Et puis aussi, on peut les faire hydrater. Il faut s'y prendre 2-3 jours avant de les consommer ou de les proposer à ses invités. On les réhydrate dans un bon vin de Loire, hein, puisqu'on est quand même ici, mais ça peut être du cidre, du jus de pomme. On les met dans cette marinade avec un grain de poivre, un clou de girofle, enfin un petit peu de sucre, pendant 2-3 jours. Et au bout de 2-3 jours, vous les faites juste porter à ébullition et puis vous les servez avec un dessert. Mais vous pouvez aussi les utiliser, les mettre dans un plat en sauce, avec une sauce au vin, enfin, etc. Et proposer des pommes à chaque invité.
D'accord, on peut les mettre avec une glace à la vanille, par très exemple, bien. Tiède, ça peut être une bonne association.
C'est parfait, c'est très bien.
Bon, ben, on va essayer, prochain dîner.
Très bien, mais des goûts et des couleurs, il faut tout pour faire un monde, et c'est tout un monde, un univers que vous nous proposez, donc Françoise Loubet, dans votre confiserie de la rue Plantagenet, un tour de France à la confiserie, une bibliothèque des saveurs, je rajouterais même, n'attendez pas les fêtes pour pousser la porte de ce commerce unique où vous rencontrerez une passionnée.
Ah, oui, merci à vous. Surtout si vous attendez Noël prochain, ça va être long.
Oh, bah, c'est dommage.
Donc, pour en savoir plus sur les produits de la boutique, un site internet, confiserie-du-6-plantagenet.fr. Mais en fait, je pense que internet, ça ne suffit pas. Il faut aller voir et respirer, donner et sentir les odeurs aussi. Oui. Et maintenant, pour conclure ce sujet, on écoute une musique qui nous évoque le chocolat. Cherchez dans vos souvenirs pour la reconnaître. Not conducive to growing the bean. My job was guarding what little we got. You came along and pinched the lot. Hey, why don't you say something?
Well, perhaps I drifted off. Bumpa, lumpa, dumpa de day. When I awoke, they sent me away. I'm disgraced, cast out in the cold. Till I've paid my friends back a thousandfold.
A thousandfold? You gotta be kidding me!
I repeat, a thousandfold.
Vous aurez peut-être reconnu Oompa Loompa, la musique de Charlie et la chocolaterie, évidemment. Vous êtes toujours à l'écoute de Franche Culture sur les ondes de Radio Campus. Et notre émission continue avec vous, Marie, direction le Château d'Angers.
Et oui, Cécile, pour la nouvelle exposition du manuscrit à la BD, les nouveaux trésors des bibliothèques des Pays de la Loire. C'est du 20 janvier au 12 mai et avec nous Catherine Leroy, chef du service culturel du domaine national du Château d'Angers. Catherine Leroy, bonjour.
Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'actualité du château, là, aujourd'hui, c'est surtout le niveau record des entrées en 2023.
Oui,
un petit mot là-dessus.
Oui, on a une forte augmentation de la fréquentation. On a dépassé les 280 000 visiteurs, ce qui représente, on était à 260 000 à peu près l'année passée. Donc, vous voyez, c'est une belle augmentation. On est tout à fait ravis d'accueillir beaucoup de visiteurs qui, je l'espère, sont contents de leur découverte au sein du château.
Et alors, ouais. C'est lié à quoi, cette augmentation?
Difficile à dire.
À part le travail de Catherine Leroy.
Évidemment. Et de toute l'équipe du château et des propositions qu'on peut faire d'animation et d'exposition. C'est une tendance un peu générale quand même.
Des monuments historiques
De manière générale, des sites
des touristiques.
Ouais,
patrimoine. Depuis le Covid, ça n'arrête pas d'augmenter.
C'est ça. On retrouve bien plus que le niveau
antérieur.
Le nôtre avant le Covid, oui.
Bon, en tout cas, bravo au château d'Angers. C'est vrai que ça fait l'actualité nationale, du coup. On va revenir à notre sujet, hein, l'exposition du manuscrit à la BD. Alors, l'Anjou serait une terre de livres au point d'y consacrer une exposition.
Alors, non seulement l'Anjou, mais tout le pays de la Loire. Effectivement, c'est une exposition qui vise en fait à montrer une sorte de bibliothèque idéale pour laquelle on serait allé piocher dans les fonds patrimoniaux des différentes bibliothèques de la région. Elle permet de mettre en exergue les acquisitions qui ont été permises par le fonds, ce qu'on appelle le FRAB, le Fonds Régional d'Acquisition des Bibliothèques, donc de l'argent, pour dire les choses un peu trivialement, qui vient de la région et de l'État, et qui permet donc aux bibliothèques de ne pas laisser passer des œuvres absolument extraordinaire pour compléter, enrichir leur fonds, avoir du coup une proposition exhaustive sur un artiste ou un sujet. Et donc on est allé sur proposition de Marc-Édouard Gauthier de la Bibliothèque d'Angers, que vous connaissez,
le
conservateur de la Bibliothèque d'Angers, directeur de la Bibliothèque d'Angers, que vous connaissez sans doute, que vous avez dû recevoir à cette bonne table.
Bien,
voilà. Donc il nous a demandé si le château accepterait d'accueillir ses ouvrages, et on a dit bien sûr, évidemment, c'est extraordinaire, on va voir des choses fabuleuses.
Ouais, parce qu'on dit livres, mais le visiteur ne verra pas que des livres, ça va de manuscrits aux affiches.
Oui, alors, aux affiches, je modérerais, mais aux planches de BD, plutôt. Hein. C'est cette idée-là, c'est-à-dire qu'on a... Et quand vous dites des livres, il y a les formes de livres auxquelles on s'attend, et puis des formes un petit peu plus étonnantes. Hein. Il y a par exemple ce qu'on appelle le Leporello, qui est donc un livre, effectivement, mais qui est sous forme d'accordéon, et qui fait 2 mètres de long. Donc vous voyez, c'est vraiment des formes de livres auxquelles on s'attend pas. Il y a des reliures aussi assez extraordinaires. Donc on va voir des choses très étonnantes. On va voir des manuscrits, effectivement, des manuscrits médiévaux. Je pense aux petits feuillets du livre d'heures de Jean de Calabre.
Un livre d'heures, en fait, c'est un livre de prière,
pour les laïcs.
C'est quasiment les premiers livres qui ont été...
Alors, c'est pas les premiers livres qui ont été faits, mais c'est des livres très spécifiques, puisque c'est pour rappeler les heures de prière pour les laïcs, en fait, hein, pas pour les religieux. Et c'est des ouvrages très précieux. Et on a donc... La Bibliothèque d'Angers a acheté 3 petits feuillets qui proviennent de ce livre d'heures de Jean de Calabre. Jean de Calabre, c'est le fils du roi René. Donc, vous voyez, c'est un personnage qui est vraiment très lié au château et très important, oui. Et donc, ces petits feuillets ont été détachés, ça se faisait, c'est un peu terrible d'entendre ça, mais on détachait les manuscrits, les feuillets de manuscrits pour pouvoir les vendre séparément. Ça vous permettait de vendre plus de choses que l'ouvrage lui-même, hein, en dissociant comme ça les pages. Donc il a été sans doute de cette façon-là dispersé, enfin en tout cas les feuillets ont été retirés avant 1882, on le sait parce qu'on a un catalogue, et donc proviennent, parce qu'il y a tous les indices concordent avec ce manuscrit, donc ce livre d'heures de Jean de Calabre qui est conservé en main privée. Donc la bibliothèque a ses 3 petits feuillets.
Et ce ne sont que des écritures ou il y a des dessins?
Ah non, là en l'occurrence c'est des dessins. Ça représente dessins, voilà. Donc il faut que vous veniez voir, vous verrez.
Si vous dites dessins, c'est qu'il y a aussi des BD, des planches de BD.
Alors,
je vous dis, il n'y a pas que
ça,
des livres, pas que des manuscrits.
Dans cette expo, vous allez voir, effectivement, il y a toute une première partie où on parle des techniques liées aux livres, des choses très intéressantes qui vous montrent, par exemple, le dessin préparatoire, la plaque de cuivre, puis le résultat imprimé. Vous voyez, on a vraiment toutes les étapes de la fabrication. Vous verrez des reliures absolument splendides aussi, où très, très étonnante, très moderne. Dans la deuxième salle, les manuscrits, la fameuse salle des manuscrits. Ensuite,
il y a six salles.
Il y a six salles. La salle suivante, qui est donc la galerie, c'est là que vous verrez les premiers livres imprimés, hein, avec la naissance de l'imprimerie, ce qu'on appelle les incunables. Il y a un incunable, c'est-à-dire un ouvrage qui a été publié, imprimé entre la naissance de l'imprimerie et 1500, donc il fait partie des premières choses qui ont été imprimées.
Il appartient à qui, ce livre-là?
Il appartient à la bibliothèque. Alors, bonne question. C'est soit Le Mans, soit Angers.
Ouais, donc c'est exceptionnel de l'avoir.
Tout à fait. Ah oui, parce que là, ce que je vous ai peut-être pas dit au début, c'est qu'on rassemble au sein du château d'Angers des ouvrages qui viennent de toutes les bibliothèques des pays de la Loire. Il y a des choses qui viennent de Sablé, de Saint-Herblain, alors, des Sables d'Olonne.
Justement, comment elles se sont enrichies, toutes ces collections, au fil des ans qu'on retrouve dans cette exposition? Comment ça s'enrichit, ces collections?
Alors là, en l'occurrence, ces éléments-là ont été achetés en vente ou auprès de collectionneurs privés. En salle des ventes, c'est aussi des moments, je pense, extrêmement fabuleux de réussir à obtenir pour le compte des collections patrimoniales des choses qui pourraient partir à l'étranger si elles sont pas protégées au titre de trésor national. Donc il y a eu différentes tous ces ouvrages qui sont présentés dans l'exposition ont pour point commun d'avoir été acquis par ce fonds régional des bibliothèques.
Alors il y a une salle qui est consacrée à la Renaissance. La Renaissance et le livre, ça a donné quoi?
Alors cette salle elle traite justement de la naissance de l'imprimerie, hein, c'est quand même milieu du 15e siècle. Et ce qu'il y a d'assez étonnant, c'est qu'au début, on ne sait pas faire autrement que des choses qui ressemblent à des manuscrits. Donc on imprime, mais on copie un peu. On a du mal à s'extraire.
Ça a démarré doucement.
Voilà, en fait. C'est ça, du modèle. Aussi, une chose très rigolote qui ne sera pas sans vous évoquer quelque chose, la police Garamond, par exemple. Hein, je ne sais pas si vous voyez ça quand vous listez, vous savez, quand vous regardez les polices en haut, vous écrivez en Times New Roman, etc. Il y a une police qui s'appelle Garamond. Or, Claude Garamond, c'est quelqu'un qui a créé une typographie, en fait, et qui était donc le graveur de François Ier. Et il y a, dans l'expo, vous verrez, il y a une thèse qui est publiée, enfin, un ouvrage de scientifique qui est publié à partir de cette police de caractère-là. Et il y a aussi une autre petite chose que m'expliquait hier une conservatrice de la bibliothèque du Mans, c'est qu'on trouve cette petite chose dont je ne connais pas le nom, mais vous allez voir de quoi il s'agit, ce petit P-là sur lequel on vient, quand vous êtes devant votre ordinateur, oui, soit vous le mettez en route ou vous ne le mettez pas en route. Les jeunes détestent l'avoir, mais moi j'ai besoin de ça, qui vous permet de savoir quand sont les retours à la ligne, les petits points d'espacement, etc. Et cette petite police de caractère, on peut dire, oui, ce petit élément, vient en fait d'un élément typographique qu'on mettait pour dire c'est fini ici, maintenant on passe à autre chose. Et donc on a gardé, vous voyez, depuis le 16e siècle, cette petite police de caractère, en fait, qui est maintenant complètement dans notre
conducteur dans l'histoire.
Ce qui veut dire que nos informaticiens sont cultivés.
Voilà.
Ils seront sans doute assez surpris de savoir que ça provient de cet ouvrage-là.
Il y a une salle qui est consacrée à Jules Verne.
Oui.
Une très belle place dans cette exposition. Pourquoi?
Alors, parce que Jules Verne, c'est Nantes.
Il
est né à Nantes. La bibliothèque de Nantes acquiert beaucoup de choses autour de la personnalité de Jules Verne.
Il y a un musée.
Il y a un musée à Nantes également. Il y a une chose assez extraordinaire. Enfin, vous allez voir, il y a des affiches absolument fabuleuses. Ça va nous rappeler autour de tout cet imaginaire. Vous savez, le tour du monde en 80 jours, les voyages le capitaine Nemo, enfin, toutes ces choses-là, le Nautilus, enfin, toutes ces choses qui nous ont bercés, qui ont bercé notre enfance. Hein. Vous allez retrouver tout ça dans toutes les langues, puisque c'est vraiment quelque chose qui est connu dans le monde entier, toutes ces histoires et cet imaginaire. Il faut bien savoir que Jules Verne, lui, s'appuyait sur des choses scientifiques absolument contemporaines. Hein. Notamment, il y avait des découvertes de bateaux, de trésors, etc., qui faisaient que tout ça a été remis sur le devant de la scène.
Alors, il y a de nombreuses médiations qui sont proposées. Donc, l'exposition, elle commence le 20, donc pas tout de suite, tout de suite. Les médiations, allez-y.
Alors, il y a des visites qui sont proposées par les conservateurs des bibliothèques, hein, qui sont les samedis. Il y a plusieurs dates, vous les trouverez sur notre site internet. Il y aura également des visites...
Donc, des visites guidées par les conservateurs pour leur salle spécifique ou ils font tout.
J'imagine
ils sont adaptés, ils font tout.
Bah, ils savent beaucoup de choses.
Les médiévistes vont aller parler de la BD et de la médiathèque, la bulle de Mazet.
Je pense qu'ils vont, et c'est un peu aussi pour ça qu'on leur a proposé de venir chez nous, ils vont un petit peu donner leur coup de cœur aux visiteurs, expliquer aux aux visiteurs. Parce qu'on peut très bien, on parle très bien de ces collections, c'est évident, hein, ils vont pouvoir vous raconter des choses. C'est sûr qu'on va avoir sur les manuscrits
médiévaux. Donc des visites guidées.
Voilà, des visites par les conservateurs, donc le samedi. Des visites commentées le jeudi matin, il y en a à peu près une par mois. Et puis on fera aussi, nous, des visites pour les scolaires, évidemment, et des activités pendant les vacances pour les enfants sur ces thématiques-là aussi. Et il y aura des petits jeux dans l'exposition. On a collaboré avec l'Institut d'Enluminure pour créer des petits jeux.
Oui, l'Institut d'Enluminure qui se situe à Angers.
À Angers, exactement, pour créer des petits jeux très sympathiques.
Spécifiques pour les petits.
Oui. Et les grands, parce qu'il n'y a pas que les...
Bah, c'est ce que j'allais dire. C'est frustrant parce que c'est toujours super chouette ce qui est prévu pour les petits, mais on voudrait bien le faire aussi.
Vous aurez envie de le faire aussi, j'en doute pas.
Catherine Leroy, merci.
De rien. Bon, donc l'exposition ouvre ses portes au château d'Angers le 20 janvier et c'est jusqu'au 12 mai, tous les renseignements sur le site du château. Bénédicte et Marie, merci pour la préparation de l'émission. Merci à nos deux invités dynamiques et passionnés. C'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci à Étienne de nous avoir dépanné pour la technique aujourd'hui avec beaucoup de talent. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h, le dimanche à 11h ou bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans aucune modération. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.